d'information au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
On a observé que les névroses et les psychoses augmentaient fâcheusement, surtout dans les pays en pleine industrialisation. Le problème est tellement important qu'en 1960, la réunion de tous les pays du monde se fera en une année d'hygiène mentale, à l'instar de l'année géophysique.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il paraît que c'est le mal du siècle. Surmenage, stress et burn-out. Il paraît que notre civilisation mécanisée, agglomérée et précipitée brutalise tellement les âmes qu'elle fait naître des chagrins insurmontables. Il paraît qu'en un temps où beaucoup sont en quête de travail, ceux qui en disposent sont menacés en grand nombre, à tel ou tel moment de leur vie, par l'accablement d'un trop-plein. Il paraît que tous les progrès de la médecine moderne ne parviennent pas à protéger beaucoup de nos contemporains contre une mélancolie qui les conduit, malgré qu'ils en aient, jusqu'à la dépression. Triste constat, lourde inquiétude, qui donne le goût d'aller rechercher dans l'histoire s'il s'agit vraiment d'une malédiction d'aujourd'hui, ou bien si le passé nous propose des précédents à ces sombres conjonctures individuelles. À vrai dire, il serait bien étonnant qu'on n'y aille pas sans trop de difficultés, débusquer des antériorités. Nous allons nous y employer ce matin en nous appuyant sur le talent, la pertinence, l'expérience de Georges Vigarello. Je l'ai invité souvent, tant sa curiosité a ouvert de chemins féconds vers tous les aspects de l'histoire des relations entre le corps et l'esprit. Il va nous falloir nous saisir ensemble d'une évocation de la fatigue physique et mentale telle qu'elle a pu être de siècle en siècle éprouvée, ressenti et pourquoi pas combattu et maîtrisé. En sachant d'avance, et nous y sommes accoutumés, que l'ensemble de ce processus peut renseigner au-delà de lui-même sur divers aspects des sociétés successives, dans l'originalité de chacune, compatible avec la permanence de sentiments qui touchent de près à rien moins qu'à la condition humaine. Enquêtons donc délibérément au plus près des vies quotidiennes entre la douleur des accablements et les sursauts du bonheur de vivre.
Spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle et nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie, étalant ses immenses traînées, d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défile lentement dans mon âme l'espoir vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
C'était Charles Baudelaire, c'était Spleen, très fameux poème issu des Fleurs du Mal de 1857 qui était lu ici par Denis Lavant en 2014. Spleen, c'est un mot que vous n'avez pas ajouté à ce que vous caressez d'ordinaire, c'est-à-dire le burn-out, c'est-à-dire le surmenage, c'est-à-dire la fatigue.
Oui, c'est vrai, et pourtant c'est une figure extrêmement importante du milieu du 19e siècle qui répond, je pense, à un contexte. On le sent d'ailleurs dans les mots qui ont été superbement évoqués tout à l'heure. On le sent comment ? Eh bien, il y a une évocation de l'ennui, il y a une évocation de l'espoir vaincu, il y a une évocation d'angoisse. Je pense que ça répond très bien, non seulement au problème du romantisme en général, mais ça répond très bien aussi à la déception qu'ont éprouvé les auteurs de ces années 50 par rapport à ce que pouvait promettre en quelque sorte la révolution, la démocratie, le sentiment qu'ils sont en quelque sorte mis hors course, l'image de l'oiseau que Baudelaire décrit, impuissant sur le bateau, en est à mon avis un symbole assez fort. Et je crois que ici, ce qui est à relever, c'est pas tellement le surmenage. C'est la rupture par rapport à un espoir. Et du coup, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à un vide, ça renvoie à un ennui, ça renvoie à quelque chose qui peut ressembler à l'effet que le surmenage provoquera, mais qui n'est pas exactement du même ordre.
Ce n'est pas la même chose et cela conduit à réfléchir comme toujours au sens des mots, éventuellement à leur étymologie. Spleen vient d'un très vieux mot grec et puis latin, spleen, c'est la rate.
Oui, ça va, ça renvoie à la mélancolie. La rate, c'est ce qui produit un sang terreux.
La bile.
La bile. Et qui va monter au cerveau et qui va créer des obstructions dans ce cerveau. D'où la tristesse, la déception et l'ennui. C'est vrai que ça renvoie à ça. Mais vous voyez que ce qui n'est pas évoqué, c'est ce que le surmenage nous dira, c'est-à-dire un débordement, un excès, un investissement beaucoup trop important. Ce qui est évoqué ici, c'est une rupture, c'est une forme de désespoir, c'est une forme de déception par rapport à ce qui était promis. Je crois que c'est ça qu'il faut relever. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut comprendre un certain de romantiques, c'est comme ça qu'on peut comprendre le texte de Musset sur le fait que Musset est lié à une déception affreuse, vous voyez ?
L'idée qu'il est né trop tard dans un monde trop vieux.
Il est trop tard dans un monde trop vieux. Et que ce qui était promis n'est pas arrivé. Et je pense que c'est ça qu'il faut relever. Alors évidemment, c'est dit d'une façon absolument magnifique, dans des mots qui nous touchent, qui renvoient à une sorte de profondeur intense de la déception et de l'espoir non réalisé. Mais c'est quand même cela, à mon avis, qu'il faut relever. Et qui n'est et ce que le surmenage dira autrement. Dans la deuxième moitié, surtout dans les dernières décennies du 19e.
Quand apparaît le mot surmenage, Georges Vigarello ?
Il apparaît un peu plus tard, dans les années 60-70.
Que nous disent les dictionnaires ?
Alors, les textes sur le sport à Paris, 1854, d'Eugène Chaput, ne mentionne pas le surmenage. En revanche, le texte de Ned Pearson, dictionnaire du sport français, en 72, mentionne le surmenage. Et que dit-il ? Il est employé dans le langage des courses. Ce mot s'applique à un jockey qui, pendant la première partie de la course, mène son cheval à un train trop vite, relativement à la distance qu'il lui faut accomplir. Et je crois que ce qu'il faut relever, c'est trop vite. Et le sentiment, précisément, qui émerge dans ces années 60-70, c'est le fait que les acteurs sont confrontés à un monde qui va trop vite. Et un monde qui les déborde.
L'accélération de l'histoire.
L'accélération. Et c'est en cela que le mot surmenage devient pertinent. Et vous voyez qu'on n'est plus dans le même horizon que celui de Baudelaire, où Baudelaire était déçu de ce qu'il attendait. Il était aussi frappé par les changements du monde, un nouveau Paris, etc., bien sûr. Mais là, vous voyez, c'est pas seulement la transformation, je dirais, physique d'un monde, c'est la transformation qui est liée à de l'accélération, à du surplus, à un trop. Un trop qui va se retrouver sur tout un ensemble de secteurs différents, y compris le secteur du savoir.
Eh bien, nous allons voir tout cela, non sans revenir en arrière, c'est notre pente naturelle, n'est-ce pas ? En se demandant si, dans l'Antiquité, déjà, il n'y avait pas des cas d'épuisement, de mort par fatigue, qui serait avant la lettre du surmenage. Je pense, par exemple, aux soldats de marathon.
Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est en cela que, à la fois, il faut s'intéresser au mot dans sa nouveauté, et il faut s'intéresser aussi aux questions de continuité. Il est bien évident que les épuisements dans les époques anciennes sont parfaitement présents. Et ces épuisements peuvent parfaitement conduire à la mort. Le soldat de Marathon en est un exemple.
On est en 490 avant Jésus-Christ. Les guerres médiques.
Exactement.
Et les Grecs l'ont emporté sur les Perses.
Oui.
Et le soldat vient de la plage de Marathon pour annoncer.
Et la course qu'il a effectuée, il a épuisé et il meurt. Donc on peut dire surmenage, vous voyez. Mais bien sûr, nous montrerons que le mot surmené renvoie à un sens différent. Mais on pourrait continuer les exemples. Il y a un exemple que je trouve très intéressant, au Moyen-Âge, par exemple, en particulier. C'est ce qui concerne ce que les auteurs vont appeler les chasse-marées. Qu'est-ce que c'est que les chasse-marées? Ce sont des gens qui conduisent la marée à Paris à partir de l'océan. Leur problème, c'est de conduire évidemment le plus vite possible pour que les poissons ne soient pas faisandés, bien entendu. Et à ce moment-là, à quoi sont-ils confrontés? Eh bien, à des efforts considérables qui peuvent conduire à la mort des chevaux ou qui peuvent conduire à l'effondrement absolu des voituriers. Et non seulement la question est présente, mais en plus, la question est travaillée, puisque au Moyen-Âge, commence à exister des procédures pour compenser la mort des bêtes qui n'ont pas pu supporter le voyage.
On les change.
Comment
les compense-t-on?
On les change pas. On paie. Vous voyez, il y a une sorte d'assurance, si vous voulez. C'est très intéressant comme question. De même que il s'agit de compenser, par exemple, la perte du contenu de la voiture. Donc on voit bien que il y a une histoire des épuisements, mais cette histoire des épuisements ne peut nous intéresser qu'en évoquant le fait. Ce qui pose problème, c'est la raison. Et là, c'est simplement l'accentuation de l'effort.
Les chroniques médiévales évoquent beaucoup les morts par épuisement au combat ou les morts des croisés en particulier.
Exactement.
La dureté des marches, la dureté des affrontements, mais même en dehors des coups reçus.
Nous sommes bien confrontés au fait que l'épuisement dans l'histoire est systématiquement présent et régulièrement présent.
Il y a un cas que je trouve intéressant, c'est celui de la reine de Navarre. Non seulement elle est la mère d'Henri IV, mais on la voit mourir à 44 ans, en 1572, parce qu'elle avait accompli des efforts excessifs pour un travail, je cite, extraordinaire, celui de la préparation des noces de son fils, qu'elle souhaitait d'ailleurs accélérer. On peut voir Jeanne d'Albret parmi les reine du jardin du Luxembourg, en statue.
Oui, bien sûr, absolument. Alors, quant aux médecins, ils n'expliquent pas bien. Simplement, ce qu'ils disent, c'est que ces efforts conduisent à faire que les humeurs du corps sortent. Et c'est le fait qu'elles s'enfuient, c'est le fait qu'elles s'évaporent qui, au fond, crée l'épuisement, vous voyez, et peut aller jusqu'à la mort dans la mesure où ils n'ont pas non plus une vision des régulations du corps. Le risque, c'est toujours que le surplus risque de renvoyer les humeurs à l'extérieur. Et à ce moment-là, le corps tombe par, impossibilité, sécheresse. C'est l'idée des humeurs qui, en s'effaçant, sèchent finalement le corps. Voyez.
L'explication médicale, d'ailleurs, pèse sur le regard que des contemporains, des différents moments, peuvent jeter sur ce phénomène, sur ces comportements, sur cette fatigue.
Oui, absolument. Et donc l'idée, c'est que le corps se dessèche et qu'il devient incapable de répondre aux attentes que l'on peut avoir à son égard. Simplement, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'une fois que nous avons fait ce constat d'un épuisement lié à l'effusion des humeurs, la sécheresse, etc., ce qu'il faut ajouter, c'est que on peut quand même trouver de l'histoire dans cette manière dont les épuisements sont évoqués.
On peut toujours, trouver de l'histoire.
On peut toujours. Et que nous dit l'histoire? Eh bien, elle nous dit que il y a des épuisements auxquels on ne songeait pas et qui existent dans le temps et qui méritent d'une certaine attention. En particulier, les épuisements qui viennent du travail intellectuel. Le premier évoqué, me semble-t-il, c'est celui de Christine de Pizan, qui dit, après avoir écrit La Cité des Dames,
son livre majeur
au début du XVe siècle, après avoir écrit La Cité, je restais oisive et aspirais au repos, en personne lasse d'être venue au bout d'un travail aussi considérable, les membres et le corps fatigués par un ouvrage si long et si soutenu. Pourquoi je m'arrête à Christine de Pizan? Pour une double raison. D'abord parce que Christine de Pizan cite un mode d'épuisement qui était relativement peu évoqué jusque-là, et ensuite parce que cet épuisement, qui chez nous renverrait à de l'angoisse, renverrait à de l'inquiétude, etc., est uniquement relevé sur le mode du corps. voyez, il y a une difficulté encore à essayer de rentrer dans des procédures qui sont celles de l'angoisse, celles de l'inquiétude, celles de l'insuffisance. On dit simplement les membres et le corps fatigués. Et des contemporains, je pense en particulier à un médecin comme Marcel Fissin, lorsqu'il évoque également le même problème, il va dire « le cerveau se dessèche et provoque l'humeur noire ». Mais il ne détaille pas ce qu'est l'humeur noire, alors que Baudelaire le détaillera, vous voyez.
La fatigue, c'est celle aussi qu'évoque Descartes, la fatigue d'esprit dans ses méditations métaphysiques.
Et c'est là qu'on retrouve effectivement l'histoire, c'est-à-dire finalement une façon d'affiner de manière de plus en plus précise et de manière de plus en plus subtile des fatigues qui n'étaient pas prises en compte. Descartes dénommera la fatigue dont parlait Christine de Pizan en disant il y a une fatigue d'esprit. Et Descartes, alors ce qui est vraiment, je dirais, parfaitement important au niveau historique, Descartes va essayer de dire également comment se prémunir, comment penser à autre chose, comment changer de sujet, comment ne pas se laisser prendre trop longuement par des réflexions métaphysiques. Donc on voit que dans cette histoire surgissent aussi des tactiques pour essayer de résister à ces épuisements. Et ces tactiques, on les retrouve. On les retrouve aussi dans la façon dont les règlements de quotidien dans les institutions religieuses vont dire attention, ne priez pas pendant trop longtemps, il faut aussi un peu de récréation. Ces indications-là, vous ne les avez pas au Moyen-Âge. Et vous les avez au contraire dans les règlements d'institutions religieuses au XVIIe, contemporain de Descartes.
Oui, c'est dans ces années-là aussi que dans son dictionnaire, Furtière explique que les récréations doivent être instituées pour relâcher l'esprit, que l'infirmité humaine ne permet pas que l'esprit puisse être toujours également occupé, non plus que le corps. Et c'est ce qui sous-tend d'ailleurs un certain nombre des descriptions magnifiques de Saint-Simon, en particulier les phénomènes qui surviennent dans le monde de la cour, qu'on connaît évidemment mieux que ceux qui arrivent du côté du peuple, dans les classes populaires. Nous avons beaucoup de témoignages sur la fatigue spécifique de l'homme de cabinet, de l'homme de robe, du parlementaire, du ministre, du commis, du courtisan aussi.
Je pense que la fatigue, contrairement à ce que l'on peut penser spontanément, je pense que la fatigue, c'est en fait un lieu d'invention. Je trouve qu'on invente des fatigues. Et le XVIIe siècle, on l'a vu avec Descartes, le XVIIe siècle invente des fatigues.
Ceux qui les vivent ou ceux qui les considèrent ?
Les deux. Ceux qui les vivent et ceux qui les considèrent. Et évidemment, ceux qui les considèrent. Alors, parlons de Saint-Simon un instant. Saint-Simon est un auteur qui montre qu'existent des fatigues auxquelles on ne songeait pas et qui sont créées par des situations sociales. En particulier, il existe, selon Saint-Simon, mais c'est pas le seul à dire ça. Madame de Maintenon le dira aussi et d'autres le diront. Il existe une fatigue de la cour, c'est-à-dire une fatigue spécifique à la façon dont la cour fonctionne. Le courtisan obligé de rester debout, le courtisan qui ne peut pas disposer d'un tabouret, le courtisan qui est obligé, au fond, de se livrer à des marches à l'intérieur des couloirs absolument indéfinies, et le courtisan qui doit se plier à des exigences auxquelles, finalement, les générations précédentes n'étaient pas nécessairement confrontées.
Eh bien, je ne résiste pas au plaisir de vous lire une page de Saint-Simon. Il s'agit du marquis d'Antin, qui est le fils légitime de Madame de Montespan. Saint-Simon en dit ceci. « Un corps robuste, et quoique peu à peu devenu fort gros, il ne lui refusait ni veille ni fatigue. Brutal par tempérament, doux, poli par jugement, accueillant, empressé à plaire, il sacrifia tout à l'ambition et aux richesses. Le plus habile et le plus raffiné courtisan de son temps, comme le plus incompréhensiblement assidu. Application sans relâche, fatigues incroyables pour se trouver partout à la fois. Assiduité prodigieuse en tout lieu différent, soins sans nombre, vues à tout et sans à la fois, adresse, souplesse, flatterie sans mesure, attention continuelle, à laquelle rien n'échappait, bassesse infinie, rien ne lui coûta, rien ne le rebuta, 20 ans durant, sans aucun autre succès que la familiarité qu'usurpait sa gasconne impudence avec des gens que tout lui persuadait avec raison qu'il fallait violer quand on était à la portée de le pouvoir. » Fin de citation de Saint-Simon.
On voit bien que Saint-Simon, crée, au fond, à travers cette description qui est magnifique, il crée une situation qui est nouvelle, qui est à la fois une situation physique, qui est aussi une situation morale, qui est à la limite presque une situation psychologique, où l'épuisement est en permanence présent et en permanence surmonté de la part de ce Dantin, fils légitime de Madame de Montespan. Mais c'est pas le seul, au fond, c'est pas la seule caractéristique que le XVIIe siècle va mettre en évidence. Il y a la fatigue d'esprit, nous l'avons vu, il y a la fatigue de la cour, il y a aussi une façon nouvelle de parler de la fatigue de la guerre. La fatigue traditionnelle de la guerre, c'est le combat. Mais la guerre est, en quelque sorte, pensée de façon tout à fait inédite, à mon avis, au XVIIe siècle, avec de grands monstres qui, au fond, mettent en évidence la qualité des uns et des autres, avec des préparations. Et cela, ça va s'appeler sur un mode nouveau, qui va être la fatigue de la guerre. Alors qu'auparavant, c'est la fatigue du combat. Vous voyez, il y a une sorte d'organisation qui fait que il faut se prémunir de la fatigue de la guerre et qui, pour certains, est assez complexe. Par exemple, pour les nobles, la fatigue de la guerre commence avec le fait qu'ils ne peuvent pas changer de chemise ou avec le fait qu'ils ne peuvent pas dormir dans des lieux qui soient parfaitement confortables. Et donc la fatigue de la guerre se diversifie, devient plus subtile, tout en étant évidemment parfaitement tragique.
Nous avons un témoignage que je vais vous proposer, qui est celui des mémoires du sergent Bourgogne au moment de la retraite de Russie. C'est un texte que je trouve tout à fait représentatif de cette sorte de fatigue parmi la mort qui rôde.
Adieu Moscou. Adieu Russie. Adieu cimetière de la grande armée. Ce n'est que sur le retour des semaines après que la neige a commencé à tomber véritablement. La désolation de la désolation, un pays qui n'en finit plus, où la distance s'allonge à mesure qu'on marche. Je me demande parfois si tout ça est arrivé, si un cauchemar ne m'abuse pas. Mais non, il y a des témoins, des survivants. Des survivants morts aujourd'hui. Là, on croit la rouler, la Camarde, la Faucheuse, elle vous rattrape au tournant. Oui, j'ai des témoins, j'en citerai des douzaines. Peugnot, Mouffa, Legrand, Isambard, Petit, des douzaines et le pouce de ces survivants morts. La désolation de la désolation, un cauchemar vrai. Sur les bouleaux de la route, des corbeaux gelés. La cohue des traînards, les chevaux expirants, les soldats qui tombent avec ce grand rire de l'agonie et ne se relèvent pas, les cadavres aussitôt durs comme du bois, que l'on enjambe ou bien contre lesquels on chope. Pour nourriture, une mauvaise soupe de gruau quand on en a, ou des galettes mal cuites et le tout sans sel assaisonné à la poudre. De Moscou, de derrière, le vent froid du rhume apporte l'air de danse pétillante et la chanson triste, triste comme la plaine qui n'en finit plus. Et entre les deux, entre la terre et le ciel, le meurtre, le sang, la fatigue, la marche fourbue des soldats, cette marche qui n'a pas de cesse, qui vous poursuit même dans l'éternité de la sépulture. Une, deux, j'aime l'oignon frit à l'huile. Oui, la chaleur et cette odeur d'huile verte un peu rance. Malgré ce qu'on pourrait croire, je ne suis plus en Russie, je suis là-bas, dans le sud. Un mirage. L'homme qui avance assoiffé à travers les sables, un mirage d'eau le trompe, ainsi de moi. Au milieu des neiges, je vois le soleil, j'ai chaud. Je transpire. Florencia.
C'était l'extrait d'une adaptation radiophonique des mémoires du sergent Bourgogne, qui était donc dans l'armée impériale, la retraite de Russie. Le texte est d'Alexandre Arnoux, membre de l'Académie Goncourt, romancier, avec Jean Davy, dont nous avons entendu la voix. C'était une émission de la RTF en 1956.
Alors, ce texte est important pour plusieurs raisons. La première, parce que on constate dans le récit que des scènes extrêmes sont longuement commentées. Et si on compare les commentaires de combat entre les époques précédentes et celles de la retraite de Russie, on se rend compte que là, il y a non pas une complaisance à présenter les drames, mais il y a une manière finalement d'accentuer la présence du drame, l'atteinte des corps, les souffrances. Et autrement dit, il y a une sorte d'affinement, d'acuité en quelque sorte dans la présentation. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui me paraît très important, c'est que la fatigue devient l'objet d'un récit. C'est quelque chose que l'on peut raconter, c'est quelque chose qui se transforme, qui évolue d'instant en instant, de moment en moment, de jour en jour. Autrement dit, ça devient une sorte de feuilleton, alors que jusqu'ici, la fatigue était évoquée sur un mode relativement ponctuel, même s'il y a effectivement des récits au XVIIIe. C'est la deuxième remarque qu'il faut faire. La troisième, quand on lit avec attention le récit du sergent Bourgogne, on se rend compte que quelque chose de nouveau, d'extrêmement important à mes yeux, a lieu. C'est le fait que, dans ces fatigues, les soldats, dans certains cas, s'ignorent, mais dans d'autres cas, cèdent. Et il y a une vision qui commence à être celle d'une nation où chacun aide l'autre dans sa propre désespérance. Je crois que là, il faut relever, au fond, un phénomène relativement nouveau que l'on va retrouver dans la manière dont les métiers vont être commentés dans les années 20 et dans les années 30 du 19e, à savoir le métier est au service des autres.
Alors qu'aujourd'hui, on peut éprouver le sentiment que le surmenage, le stress et le burn-out éventuellement sont des aventures ou des malaventures très individuelles.
Mais oui, il y a une grande différence. Quelque chose, c'est desserré, si vous voulez. Quelque chose, c'est émietté et livre les individus davantage à leur propre, je dirais, à leur propre fragilité, qui est une fragilité totalement individuelle, où ils se sentent seuls. Je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, qui rend le burn-out aussi tragique.
Alors vous disiez que c'est au 19e siècle, Georges Vigarello, qu'était apparue l'expression de surmenage. Ce phénomène individuel et collectif qui nous occupe ce matin, ce 19e siècle, c'est celui où le romantisme va s'emparer du mot et de la chose.
Oui, absolument. Mais l'originalité va quand même au-delà. En particulier dans la mesure où le mot surmenage converge avec cette idée selon laquelle il y a brusquement un débordement auquel on ne s'attendait pas. Et ce débordement est multiple. Ce débordement est fait d'abord de savoir beaucoup plus massif, beaucoup plus important. Je pense par exemple aux encyclopédies qui sont nombreuses dans la deuxième moitié du 19e.
L'analyse physiologique évolue.
Alors, l'analyse physiologique évolue, bien sûr. Elle évolue dans la mesure où nous ne sommes plus face à des corps qui sont épuisés parce qu'ils ont perdu leurs humeurs. Nous sommes face à des corps qui sont épuisés parce que ils ont consommé de l'énergie, ça c'est complètement nouveau avec la démonstration qu'a faite antérieurement Lavoisier, à savoir il y a de la combustion, il faut arriver à faire en sorte que l'oxygène puisse créer du feu.
Il y a la métaphore de la machine.
Il y a la métaphore de la machine. Et qu'est-ce que le surmenage ? Le surmenage, c'est lié à une consommation qui crée des produits qui sont des produits toxiques.
Alors qu'avant, par exemple, la courbature s'expliquait par des sécheresses, des duretés ou par des effets mécaniques,
des tiraillements.
Muscles étaient froissés. Désormais, elle s'explique par des raisons chimiques.
Par des raisons chimiques qui sont fait que le muscle est submergé par des produits qui le rendent toxique.
Altéré.
Alors la démonstration est tout à fait remarquable.
Altérée et infectée.
Infectée. La démonstration est remarquable parce que vous avez des auteurs qui commencent à autonomiser un muscle de grenouille qui excite le muscle de grenouille jusqu'à ce qu'il ne soit plus en mesure de se contracter, qui ensuite font passer, je ne vous dirai pas comment, je ne le sais pas, mais font passer de l'eau à l'intérieur du muscle pour qu'il soit purifié, et à ce moment-là, le muscle se remet à pouvoir se contracter. Donc on voit bien que l'impossibilité est liée à la présence de produits qui sont des produits toxiques. Et c'est aussi effectivement à partir de ce type de repère que le mot surmenage apparaît, vous voyez. Il y a des raisons multiples. Ce type de repère qui fait que ils sont dans l'impuissance de pouvoir se contracter. Mais il y a des raisons multiples. Ils sont aussi face à des débordements auxquels on ne songeait pas et qui sont nouveaux.
Et c'est là qu'arrive aussi le regard moral. Il se mêle une analyse en quelque sorte prescriptive dans ce regard. Je pense par exemple à ce très fameux roman de Karl Huysman, À rebours, où le héros désesseinte a figure tout à fait représentative de ce comportement, de cette sorte de chute dans une certaine forme de mal qui va le conduire à ce surmenage.
Une impuissance.
À l'impuissance, à l'impuissance. Écoutons cet extrait de À rebours, 1884, qui était diffusé dans l'émission Une vie, une œuvre, de Hubert Juin sur France Culture, le 22 novembre 1984.
Au temps où il compagnonnait avec les Hobereaux, il avait participé à ces spacieux soupers où des femmes saoules se dégrafent au dessert et battent la table avec leurs têtes. Il avait aussi parcouru les coulisses, tâté des actrices et des chanteuses, subi, en sus de la bêtise innée des femmes, la délirante vanité des cabotines. Puis, il avait entretenu des filles déjà célèbres et contribué à la fortune de ces agences qui fournissent, moyennant salaire, des plaisirs contestables. Enfin, repu là de ce luxe similaire, de ces caresses identiques, il avait plongé dans les bas-fonds, espérant ravitailler ses désirs par le contraste, pensant stimuler ses sens assoupis par l'excitante malpropreté de la misère. Quoi qu'il tentât, un immense ennui l'opprimait. Il s'acharna, recourut aux périlleuses caresses des virtuoses, mais alors sa santé faiblit et son système nerveux s'exacerba. La nuque devenait déjà sensible et la main remuait, droite encore lorsqu'elle saisissait un objet lourd, capricante et penchée, quand elle tenait quelque chose de léger tel qu'un petit verre. Les médecins consultés l'effrayèrent. Il était temps d'enrayer cette vie, de renoncer à ces manœuvres qui alitaient ses forces. Il demeura pendant quelque temps tranquille, mais bientôt le cervelet s'exalta, appela de nouveau aux armes. De même que ces gamines qui, sous le coup de la puberté, s'affament de mets altérés ou abjects, il en vint à rêver, à pratiquer les amours exceptionnelles, les joies déviées. Alors ce fut la fin. Comme satisfait d'avoir tout épuisé, comme fourbu de fatigue, ses sens tombèrent en léthargie, l'impuissance fut proche. Il se retrouva sur le chemin, dégrisé, seul, abominablement lassé.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Oui, alors la chute, la fatigue et finalement l'impuissance.
Ben oui, nous avons vu la question du muscle tout à l'heure. Nous avons vu aussi la question d'une forme de débordement, d'excitation. C'est très présent chez De Saintes. Je pense qu'il y a là vraiment la description d'excitation qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus rapides, de plus en plus intenses. Il y a aussi une description nouvelle des symptômes, quand même. Il y a une attention au corps qui grandit avec le 19e siècle. C'est de plus en plus ténu la façon dont il décrit ses propres symptômes. Et puis, il y a cette crainte terrible qui est celle de l'impuissance. C'est-à-dire que finalement, le surmenage, ça conduit, c'est le mot qui est présent, ça conduit à la chute totale et à l'impossibilité de faire. C'est finalement cela aussi qui est nouveau dans les modes de description. Vous voyez, alors ça se traduit ici par des mots du type ennui, etc. Mais ça se traduit, ne l'oublions pas, par le mot impuissance. Et je pense qu'il y a dans la société du 19e, 2e siècle également une grande crainte qui est le fait d'être confronté à l'impossibilité non seulement de faire, mais aussi d'avoir une présence physique, sexuelle, bien sûr. La crainte de l'homme, si vous voulez. Alors ça renvoie aussi à une autre idée, c'est la montée de la présence féminine, qui est pas tellement citée dans le texte.
Ouais, elle est citée, mais de façon extraordinairement péjorative
sur les
femmes.
Bien sûr. Mais qui entraîne la peur, la crainte, le fait d'être débordé.
C'est le temps aussi où les médecins, hygiénistes et leurs successeurs, parlent de plus en plus de la question de la neurasthénie, la question du surmenage. Je pense par exemple au père de Marcel Proust, grand médecin, Adrien Proust, qui a écrit un livre en 1900 qui s'appelait « L'hygiène du neurasthénique » et qui insiste sur un thème également assez nouveau, c'est l'idée que que la révolution industrielle, conduisant à des stratifications sociales, conduisent les citoyens à avoir de plus en plus envie de monter on dirait aujourd'hui l'ascenseur social, et que ça les obsède. Il écrit « Autrefois, les classes étaient comme parquées derrière des barrières infranchissables, et bien peu, parmi les forts, cherchaient à sortir du milieu où le hasard les avait placés. Aujourd'hui, chacun s'efforce de s'élever plus haut que ses ancêtres, la concurrence a grandi, les conflits d'intérêts et de personnes se sont multipliés dans toutes les catégories d'État, et par conséquent, une foule d'individus imposent à leur cerveau un travail au-dessus de leurs forces. »
Alors là, on voit bien en quoi il y a originalité de recourir au mot surmenage. Il y a originalité à plusieurs titres, je ne veux pas y revenir trop longuement, mais la fameuse affaire des muscles qui viennent polluer en quelque sorte le fonctionnement de l'organisme, la surexcitation qui vient également entraîner cette impuissance et cet effondrement, l'accentuation des savoirs, des vitesses, le monde qui bouge, qui entraîne de plus en plus de sollicitations, etc. Et puis, bien sûr, struggle for life, c'est-à-dire finalement le fait d'être confronté à la nécessité d'affronter. Et je pense que toutes ces raisons font que il y a une légitimité à employer un mot nouveau.
On retrouve la même atmosphère dans Émile Zola, d'ailleurs c'est pas une surprise, au Bonheur des Dames, la description du grand magasin. Dans le rayon, tous n'avaient qu'une idée fixe, oui, déloger le camarade au-dessus de soi pour monter d'un échelon, le manger s'il devenait un obstacle. Et cette lutte des appétits, cette poussée des uns sur les autres, était comme le bon fonctionnement même de la machine, ce qui enrageait la vente et allumait cette flambée du succès dont Paris s'étonnait. Et il insiste d'autre part sur l'extrême fatigue que cela...
Exactement, il insiste sur l'épuisement. Je pense qu'il y a un deuxième repère dans Au bonheur des dames que je trouve personnellement précieux quant à ces problèmes que nous évoquons, c'est la présence de la cliente. Alors quand vous regardez la façon dont il évoque la cliente, vous voyez que au fond, elles sont elles aussi soumises à une forme de fatigue, parce que elles sont surexcitées par ce qu'on leur présente. Elles sont victimes de leurs désirs, et ces désirs s'accumulent, et finalement, elles aussi sortent épuisées de leur visite au Bonheur des Dames.
Et c'est là qu'on retrouve, Georges Bigarello, l'image de l'imaginaire de l'accélération fin de siècle qui apparaît, qui va marquer l'entièreté du XXe siècle. Accélération qui est expliquée par l'électricité, le courant, le télégraphe, la communication. L'information continue déjà, on crie des journaux d'heure en heure sur les boulevards. Le sentiment de vitesse du monde, les chronomètres, les transports, etc. Avec cette ville qui est censée agresser l'essence. Et c'est une thématique qui désormais va régner tout au long du XXe siècle. Écoutez donc cette chronique que nous avons dénichée. C'est un libre propos de Georges Delamare sur le stress, sur le surmenage au travail, que j'extrais des actualités de midi, RTF, 17 mars 1960. C'est d'époque, et vous me direz si cela vous paraît se rattacher plus à ce 19e siècle que nous venons d'évoquer, ou plus à notre contemporain.
Georges Delamare, à vous.
C'est très bien, c'est très prudent de dire, d'écrire que notre machine nerveuse est survoltée, que les administrations accusent une progression effarante de congés de longue durée pour troubles mentaux, que des usines enregistrent parmi leurs ouvriers un nombre croissant d'altérations dues au surmenage. C'est très sage de signaler le mal, mais ce serait davantage d'indiquer leur remède. Nous le savons, nous le comprenons, notre système enregistreur est saturé d'images, de bruit, de paroles, d'informations. Les mécaniques inventées par l'homme se retournent contre lui, exigent de lui une sorte de rançon. C'est génial d'avoir inventé l'automobile, et maintenant les voitures sont si nombreuses qu'il est impossible d'assister à leur défilé pendant quelques minutes sans avoir le vertige. C'est prodigieux la radio, la télévision, et voici qu'elles ont tué le silence et la détente. Ajoutez les inquiétudes devant les exigences de la vie trop chère, trop absorbante, ajoutez les soucis, les devoirs familiaux. Pour affronter cette fatigue démesurée, mal compensée par quelques heures de sommeil, il faut un inusable cerveau d'acier que bien peu possèdent. Alors que faire? Comment le rencontrer, cet apaisement que les physiologistes nous ordonnent, en fuyant la ville le dimanche? Encore est-il nécessaire de le pouvoir et de savoir où aller? En comptant sur les 3 ou 4 semaines de vacances annuelles pour effacer comme par miracle 48 semaines d'épuisement, en arrêtant net la marche des inventions, des découvertes, impossible. Nous sommes pris dans l'engrenage, bon gré, mal gré. Bref, le moment est venu pour nos dirigeants de se préoccuper un peu moins du travail et beaucoup plus du repos. Et ce n'est pas commode. Une collectivité si active, devenue si active, par quel moyen lui apprendre à ne rien faire sans qu'il en résulte un manque à gagner?
Ça y est, je me sens fatigué, mon cher Delamare.
Eh bien,
faire?
Eh bien, écoutez, nous allons nous arrêter, c'est encore ce qu'il y a de mieux.
On va peut-être chercher une bonne émission tout de même.
Et nous continuons, Georges Bigarello.
Oui, alors je pense qu'il y a une continuité dans le propos de Delamare. Il y a une continuité, à savoir débordement, vitesse, excès. Nous sommes au fond submergés par les informations. Il y a une continuité. Il y a quelque chose de nouveau qui est discret, mais qui me paraît mériter d'être relevé, c'est l'importance donnée au loisir. C'est-à-dire, nous l'oublions jamais, ce fameux texte magnifique de Dumazier, La civilisation du loisir.
Geoffre Dumazier
s'est rendu compte qu'il y avait un monde nouveau qui se créait à partir des années 50-60, qui était non seulement celui des vacances, mais celui d'organiser finalement le fait de disposer du temps et de faire autre chose. Alors, en cela, il y a une idée nouvelle chez Delamare. Mais il y a une idée qui, pardonnez-moi, manque. À savoir que les années 60 inventent quelque chose qui est quand même fort et qui est l'angoisse, qui est l'inquiétude. On le voit déjà un petit peu à la fin du 19e, mais ça va devenir de plus en plus fort. Le fait de se sentir dans l'impuissance de faire qui entraîne de l'angoisse et qui entraîne de la crainte, qui entraîne du malaise et une forme de mal-être, si vous voulez. Et je pense que ça mérite d'être relevé. Et ça mérite d'être relevé sur un mode relativement nouveau. Je m'explique. Les fatigues dont nous avons parlé précédemment, fatigue de la cour, fatigue de la guerre, fatigue du combat, c'était des fatigues plurielles. Or, ce qui se crée progressivement avec la société contemporaine, c'est une fatigue unique qui renvoie au mal-être vis-à-vis du monde, qui renvoie au sentiment qu'il y a une désadaptation par rapport à ce monde.
C'est totalement neuf, et
c'est pas suffisamment présent dans le propos de Delamare, alors que c'est présent dans le propos des contemporains.
C'est-à-dire à la civilisation du travail à la chaîne. J'utilisais trois adjectifs tout à l'heure à propos de la civilisation mécanisée, agglomérée et précipitée.
Oui.
Certains ont peut-être remarqué que je les avais empruntés au général de Gaulle, 14 décembre 1963, lorsque il inaugurait la maison ronde, la maison de la radio où nous sommes ce matin, Georges Bigarello, il l'inaugurait et il saluait la radio comme adaptée à cette civilisation. Civilisation mécanisée, agglomérée, précipitée, c'est une donnée majeure.
Majeure.
C'est le paysage de fond sur lequel se développe ce surmenage, ce stress, ce burn-out.
Mais en fait, nous entrons en même temps dans un certain nombre de repères qui me paraissent personnellement nouveaux. Quand je dis fatigue de civilisation, je crois qu'il faut ajouter que qui a commencé à se penser et à s'éprouver dans la deuxième moitié du 20e cette fois, c'est une perte de sens. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était accepté. Le fait, ce qui était insupportable, c'était l'excès. Mais ça n'allait pas au-delà. Or, qu'est-ce qui est inventé dans la deuxième moitié du 20e ? C'est l'attente de sens. C'est le fait que nous y retrouvions. C'est le fait que notre identité puisse effectivement s'assurer et exister. Et cela, c'est une exigence nouvelle qui, alors même que les heures de travail sont moins importantes qu'elles ne l'étaient, alors même que les exigences par certains côtés sont moins importantes, néanmoins il y a une attente qui est, elle, fondamentale et qui crée de la fatigue. C'est une attente de sens, c'est une attente de reconnaissance et c'est une attente, finalement, d'exister comme individu.
Mais enfin, le fordisme, Georges Bigarello, le travail à la chaîne, c'est aussi un élément du surmenage. La répétition est un élément du surmenage.
C'est un élément fondamental du surmenage. Dans la mesure où la répétition crée de la monotonie, et la monotonie est facteur, bien entendu, à la fois d'ennui et de surmenage. Mais ce qui s'ajoute, j'insiste, ce qui s'ajoute dans les périodes récentes, c'est l'attente de sens, que ne donne absolument pas le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, c'est au contraire, ce que Friedman montre très très bien, c'est au contraire une explosion de votre propre activité.
George Friedman, c'est un autre sociologue qui a écrit un livre fameux qui s'appelle « Le travail en miettes ».
Absolument.
Dans ces années, au mi-temps du XXe siècle.
Voilà, dans les années 50. Et le travail en miettes dit tout. C'est-à-dire que c'est un travail dans lequel vous ne retrouvez plus l'unité de votre comportement et, allons jusqu'au bout, l'unité de vous-même. Donc c'est là, vous voyez, c'est là que s'amorce cette exigence qui va porter sur le fait de trouver du sens.
Avec, dans les mêmes années, un développement des réflexions sur la manière de dominer le surmenage. Par exemple, dans ce reportage télévisé, vous en avez la trace un peu légère, ce reportage qui évoque le surmenage vaincu par l'oxygénation. Un extrait des Actualités françaises du 12 décembre 1956.
Les temps sont durs, conducteur. Résultat, surmenage. Les études sont accablantes et, on l'a dit et répété, les étudiants et les programmes sont beaucoup trop chargés. Surmenage. Sportif qui vous surentraîne. Homme d'affaires accablé de préoccupations. Surmenage. Mari qui n'avait même plus la force de faire le soir la lecture à votre épouse. Surmenage. Surmené de tous âges, il existe aujourd'hui à Paris un centre d'oxygéno-relaxation où un séjour de 3 quarts d'heure vous fera l'effet de 3 jours passés à la montagne. Tout d'abord, vos muscles crispés se détendront sous la caresse du vibromasseur. Puis, sous une tente translucide, baignant dans une atmosphère suroxygénée, vous respirerez l'air des cimes. Enfin, le paysage de vos rêves vous procurera dans le même temps le dépaysement nécessaire à votre relaxation psychique. Et vous vous sentirez devenir un autre homme. Votre vitalité retrouvée fera de vous cet athlète qu'aucune difficulté ne fait hésiter.
Mais c'est à travers ce témoignage que nous retrouvons l'histoire. Parce que revenons à la fin du 19e. Qu'est-ce qui était proposé aux surmenés? Ce qui était proposé, dans la mesure où on considérait que c'était leur volonté qui s'était effondrée, retrouvez votre volonté. Donc les stations thermales, etc., elles étaient faites pour quoi? Elles étaient faites pour retrouver de la vigueur et de l'énergie. Douche froide, marche...
Bain debout.
Exactement. Or, qu'est-ce que propose ici ce discours, c'est relaxez-vous. Donc il y a quelque chose qui s'est inventé, vous voyez, relaxation psychique. Autrement dit, vous êtes débordé, mais détendez-vous. Alors que au 19e siècle, vous êtes débordé et vous devenez impuissant, on va vous redonner de la force. Il y a quelque chose qui s'est inversé et qui est quand même au bénéfice de l'individu. C'est-à-dire, prenez du plaisir, essayez de vous retrouver vous-même en vous détendant. Je crois que ça, c'est une immense invention du XXe siècle, qui était inenvisageable dans les décennies précédentes. Et comment très très bien le propos que nous venons d'entendre, relaxation psychique, plusieurs fois le mot relaxation, oxygénation. Vous voyez, c'est plus du tout les stations thermales de la fin du 19e siècle.
Mais le temps de l'oxygénation, c'est aussi le temps du dopage, qui est beaucoup plus néfaste à la santé et qui est une manière contemporaine,
absolument,
qu'on ne trouve peut-être pas autrefois, de lutter contre ce surmenage dont nous parlons ce matin.
Alors ça, c'est un autre versant qui est dans une certaine mesure presque à l'opposé et qui est, si vous voulez résister au débordement auquel vous êtes confronté, recourez à des produits qui vous permettent de vous réassurer.
Ça existait déjà au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, XVIIIe?
Ce qui existait, c'était la prise de produits, mais pas du tout dans cet esprit-là, si vous voulez. C'était simplement le fait d'avoir, au fond, des chocs, une sorte de vous voyez, le poids. Par exemple, le poivre au Moyen-Âge crée un choc qui vous permet de résister. Là, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. C'est trouver à l'organisme des manières d'affronter.
Avec le surgissement des amphétamines, très important.
Le surgissement des amphétamines dans la deuxième moitié du XXe, utilisé très fortement pendant la guerre de 40 par les Allemands en particulier. Et on considère que l'attaque des Ardennes...
Blitzkrieg, est la résistance. Oui. Pas de Blitzkrieg sans amphétamines, c'est ça que vous nous dites?
Oui, c'est ça que je vous dis. Il y a un très beau livre là-dessus qui montre que finalement la résistance... à l'égard du combat, le fait de ne pas dormir pendant 2 jours, c'est lié à la consommation des produits. Et cette consommation, elle traverse effectivement la deuxième moitié du XXe, on le voit bien. Elle est encore présente aujourd'hui, avec cet envers, détendez-vous. Il y a les deux quand même. Résistez en suraccentuant vos possibilités, résistez en vous détendant.
Mais le dopage, bien sûr, concerne directement le sport. Il y a aussi le surmenage sportif.
Oui, parce que c'est l'exemple privilégié de dépenses extraordinaires concernant la fatigue. Donc le dopage, c'est une manière finalement d'essayer de résister à cette fatigue et de l'emporter. Et cela dit, c'est bien sûr le recours à une pratique qui est dangereuse, qui est inquiétante. C'est ça qui définit le dopage. Peut-être faut-il ajouter aussi que cette recherche d'aller au bout de soi-même est relativement nouvelle. C'est une sorte de légitimation de l'excès.
De l'extrême.
C'est ça qu'invente le sport, vous voyez. Par rapport aux pratiques précédentes qui étaient des pratiques de mesure, le sport invente le fait de légitimer l'excès. Et dans cet excès, je pense qu'il y a la tentative de retrouver une sorte de force interne de soi-même qui est une manière de non plus se lancer dans les transcendances traditionnelles sur aller au bout de l'esprit de soi, etc. C'est aller au bout de soi-même à travers un effort.
L'aspect positif, c'est l'effort, aller au bout de soi-même. L'aspect négatif, c'est le surmenage auquel ça peut conduire.
Exactement, le risque.
Il y a une autre donnée qui mérite d'être relevée, qui est probablement contemporaine, pas seulement. L'attitude qui consiste à dire « je suis très occupé, je suis très pris, on a besoin de moi, mon temps est en quelque sorte dévoré », en tirer moins de l'inquiétude que de la fierté. Et cela renvoie directement à un personnage de La Bruyère, qui se comportait exactement de la sorte, avec un harassement, disait-il, supposé.
Vous moquez-vous de rêver en carrosse ou peut-être de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez. Ne saluez qu'à peine ces gens qui passent dans leur équipage. Ils vous en croient plus occupés. Ils diront « Cet homme est laborieux, infatigable, il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur la route ». Apprenez du moindre avocat qu'il faut paraître accablé d'affaires, froncer le sourcil et rêver à rien très profondément. Savoir à propos, perdre le boire et le manger. La Bruyère.
Alors avec la Bruyère, ce que l'on voit, c'est aussi la ville. C'est-à-dire la présence dans la ville de ceux qui montrent qu'ils sont occupés. Mais c'est vrai que cet prestige lié à l'occupation, à la suroccupation, la manière de montrer qu'on peut surmonter la suroccupation, traverse le temps et renvoie à une façon finalement de faire exister du prestige et à l'imposer aux yeux des autres.
Alors l'extrême pointe du surmenage, c'est le burn-out. Pour une fois, j'ai accepté d'utiliser ici un mot anglais, anglo-saxon, parce qu'il est entré dans le langage commun et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Écoutez donc celui d'Aude, responsable des relations humaines dans une entreprise, qui a subi un de ses burn-out. Elle le raconte, c'est un extrait de l'émission « Les pieds sur terre » de Sonia Kronlund sur France Culture, émission récente, du 21 septembre 2015.
Et en août 2011, c'est là où j'ai eu mon premier incident. Donc, je prends le train de chez moi pour aller au travail après un week-end que j'ai passé entre copines. Je prends le train, et j'arrête pas de pleurer. J'arrête pas de pleurer, incontrôlable. J'appelle ma sœur jumelle et elle me dit mais c'est pas possible, je peux pas aller au travail dans cet état-là. Je lui dis et la première chose qu'on dit c'est mais non, je peux pas prendre l'arrêt maladie. J'ai trop de travail, je vais jamais m'en sortir. Et j'arrive donc à la gare. Et là, j'ai un trou noir. J'étais tétanisée. J'ai pas pu mettre un pied devant l'autre. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai un trou noir à ce niveau-là. Mais je me suis retrouvée dans un bureau d'un médecin de ma ville. J'étais en crise. J'ai pas arrêté de pleurer. Il avait du mal à entendre ce que je lui disais. Et il me dit, mais mademoiselle Célie, vous allez, là, vous êtes en train de faire un début de burn-out. Si vous continuez comme ça, dans 6 mois, vous allez craquer. Bah, c'était pas dans 6 mois, c'était dans 9 mois. J'ai tenu 9 mois et puis j'ai fait ma tentative de suicide. Je voulais pas me réveiller. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Je voulais plus retourner au travail et plus subir toutes les humiliations que j'avais vécues. Vraiment, quand on parle du burn-out, pour moi, ça a été une explosion. C'est indescriptible tellement c'est interne, mais j'ai perdu pied. J'ai perdu pied. Avec la fatigue, on n'a plus toutes les facultés physiques, mentales et émotionnelles. Et moi, mon mental, il était plus là. Donc, je sais que j'ai pris cette décision sans discernement, mais c'était la seule pour que je puisse arrêter de souffrir. Je ne voulais plus retourner au travail, plus du tout.
Cette souffrance, Georges Vigarello, elle a parcouru toute notre émission.
Oui, alors c'est vraiment le mot souffrance qui convient. Et en même temps, ce qui convient, c'est de montrer en quoi cette souffrance, telle que nous venons de l'entendre, est originale. Ce que nous avons vu jusqu'ici, ce sont des épuisements. Nous avons mentionné leur dimension physique, nous avons mentionné leur dimension psychologique. Ce que nous entendons dans ces paroles, c'est en même temps quelque chose de relativement différent. C'est pas seulement le débordement lié à un surcroît de travail, c'est une notion qui revient ici et que je trouve très importante, le mot d'humiliation. Je pense que il y a de plus en plus la prise en compte d'un versant psychologique. Non pas que ce versant était absent, mais il est de plus en plus pris en compte. Et ce versant psychologique porte sur la question de l'humiliation, sur le fait de ne pas trouver son identité comme étant reconnue.
Là, on est loin des ministres épuisés de Saint-Simon.
On est très loin de Chamillard, qui avait beaucoup trop de responsabilités dans le gouvernement de Louis XIV et qui s'en plaignait en disant « je suis épuisé ». Il y a quelque chose d'autre ici qui se manifeste. C'est le fait de ne pas supporter la domination qu'exerce quelqu'un sur vous-même. Et le fait de sentir que votre vous-même par cette situation même, est brisé. Vous voyez, c'est pas seulement l'excès de dépenses, c'est l'insuffisance de reconnaissance. Quelque chose de nouveau ici s'instaure. Et je dis bien, et c'est ça que je trouve très important, il y a bien une invention d'une fatigue nouvelle, qui sans doute pouvait exister auparavant, mais n'était pas prise en compte.
On ne la trouve ni dans Baudelaire, ni dans Huysmans des Esseintes.
Et qui commence à être prise en compte, et qui est terrible, parce qu'elle peut aller jusqu'au suicide. Donc on voit bien que ce qui s'enrichit progressivement dans cette histoire finalement de la fatigue, c'est pas seulement la dimension physique, c'est pas seulement la dimension psychologique que l'épuisement peut représenter, c'est la dimension de non-reconnaissance que cet épuisement peut représenter. Et je pense que nous sommes au cœur de cette question, qui est liée à la question dont la domination n'est plus supportable, qui renvoie à des nouveaux types de pénalisation, le harcèlement, etc. Vous voyez, il y a un monde nouveau qui est en train de naître, qui porte sur la façon dont l'individu se ressent et qui porte sur la façon dont l'individu peut se revendiquer.
Ce qui veut dire que cette notion de sphère intime, qui paraît s'être beaucoup étendue, est approfondie, complexifiée.
Exactement.
Parce qu'elle devient, elle ne prend son sens que dans un entourage social, à quoi on est beaucoup plus que naguère attentif.
Voilà, à quoi on est beaucoup plus attentif que naguère, et qui finalement fait exister des symptômes nouveaux, et fait exister aussi quelque chose auquel personnellement je suis très sensible, c'est-à-dire le fait que le mal-être renvoie à une question qui est à la fois psychologique et sociale, et qui est générique. C'est-à-dire que c'est pas seulement un mal-être lié à telle situation, c'est un mal-être global. La personne en burn-out renvoie à une question qui porte sur la famille, qui porte sur l'entour, qui porte sur la relation avec les enfants, et plus seulement la situation de travail, même si la situation de travail peut être l'enclencheuse, si je peux utiliser ce mot.
Eh bien, ce sera votre dernier mot, Georges Bigarello. Vous avez publié un livre important. Tous vos livres sont importants. Un livre important en 2014 qui s'appelait « Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps ».
Et qui n'est pas étranger à ceux dont nous venons de parler.
On n'en est pas loin, vous avez
absolument
commencé de réfléchir à ces questions en cette occurrence.
Oui.
Quel est le lien ?
Mais le lien, c'est la manière dont l'individu s'assume et la manière dont l'individu attend à la fois une reconnaissance et comment il qualifie sa propre identité en passant entre autres par l'intégrité corporelle et par l'intégrité psychologique.
Nous vous devons aussi une histoire du sport publié aux éditions du Pommier, INSEP et Carnet Nord en 2018.
J'essaie de m'intéresser au corps sur des facettes relativement différentes dans lesquelles le sport fait partie, mais aussi le dopage ou la fatigue, bien sûr.
Et puis il y a le livre majeur que vous avez signé aux éditions du Seuil avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, direction d'un ensemble de contributions d'historiens, l'histoire du corps. C'était nouveau.
On peut dire les choses comme cela, néanmoins, il y avait eu des réflexions portant sur le corps. Ce que nous avons tenté, c'est peut-être d'essayer de faire, le mot synthèse est un mot prétentieux, mais d'essayer de faire un peu le tour de la question sur les problèmes de l'histoire du corps. Parce qu'il y avait quand même des histoires de la sexualité, il y avait quand même des histoires de la peur fait partie de l'histoire du corps. Et vous voyez, il y avait des choses. Et on a essayé, tous les textes de Corbin sont des exemples. Nous avons essayé de faire une sorte de synthèse, sans utiliser le mot sous forme trop prétentieuse.
Il y a une question que nous n'avons pas traitée, c'est le surmenage des joueurs, ceux qui jouaient aux cartes, au poker au XVIIe siècle. Mais nous avions traité cette question dans une émission récente à laquelle je vous renvoie. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous sommes au printemps, donc au moment de l'apparition des nouvelles éditions des dictionnaires. Eh bien, nous parlerons de l'héritage du Grand Larousse. Et pour cela, je recevrai Pascal Horry. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au sujet suivant, une histoire des Outre-mer. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration, comme chaque semaine, très précieuse de Jeanne Guéroux, la réalisation excellente de Yaël Mandelbaum, avec Nicolas Slimani à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.